RCF.
Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus utilise la symbolique paysanne pour parler de son rôle de guide dans la vie spirituelle. Reprenant l'image du berger et des brebis, il tente de faire comprendre à ceux qui l'écoutent qu'il est venu dans le monde comme rassembleur pour aider ceux et celles qui désirent orienter leur existence vers la vraie vie. Jésus ne s'auto-proclame pas berger comme le font certains gourous, mais il se reçoit d'un père et c'est cette union réciproque qui donne à son enseignement un rayonnement si particulier, même si autour de lui, nombreux sont ceux qui crient au blasphème. Pour lire avec nous cet évangile, je reçois Patrick Laudet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes diacre permanent dans le diocèse de Lyon, alors nous allons écouter ce texte qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 10, versets 27 à 30.
Jésus déclara « Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. »
Patrick Laudet, dans le temps pascal, on va entendre l'évangile de Jean. Alors, il faut resituer le cadre dans lequel s'inscrit le passage que nous venons d'entendre.
Oui, alors le quatrième dimanche de Pâques, c'est le traditionnellement, quelle que soit l'année, l'évangile du bon pasteur. Et cette année, l'année C, nous lisons la fin du chapitre 10. Et donc, évidemment, c'est très ramassé, très condensé. Il faudrait lire vraiment tout le chapitre, tous les versets qui précèdent pour voir comment Jésus essaie de faire rentrer un peu ses auditeurs dans l'intelligence de ce que c'est qu'être berger de son peuple. Et donc, l'évangile de ce dimanche ne fait que récapituler un certain nombre de choses.
Ce qu'on sait, c'est que Jésus se trouve à Jérusalem, dans le cadre du temple, et qu'il parle alors avec des autorités religieuses.
Oui, alors on est à Jérusalem, et le découpage de l'évangile a ceci de regrettable, le Père et moi nous sommes un, et le vers suivant, c'est de nouveau les Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Donc ça chauffe à Jérusalem, hein, ouais. Parce qu'il est en train de dire des choses qui sont quand même extrêmement, alors soit confuses pour un certain nombre, soit extrêmement blasphématoires pour d'autres, et donc il va être obligé de quitter Jérusalem, et on sent qu'il monte peu à peu vers la passion. Donc là, il y a un retentissement évidemment de ces paroles dans le cadre du temple, dans le cadre de la fête de la dédicace, et ce ne sont pas simplement des petites images un peu pastorales pour poétiser sur sa venue.
Alors ce sont des images, hein. On peut dire une parabole. Il n'y a pas une grande histoire, mais
oui,
en fait la brebis...
C'est pas tout à fait une parabole, d'ailleurs lui-même le dit au verset 7, c'est pourquoi Jésus reprit la parole et il dit, et Jésus employa cette image.
Oui, c'est une image.
Oui, c'est merveilleux parce que le je suis de Dieu est toujours sans attribut et aucun attribut ne pourra jamais à lui seul dire ce qui est Dieu. Mais c'est le mystère de l'incarnation, comme par amour pour les hommes, dans sa pédagogie, Jésus ne craint pas d'être berger, d'être époux, donc il se risque à des images. Alors il faut aujourd'hui entrer un peu dans l'intelligence de ce que c'est qu'être berger. Et c'est merveilleux parce que il s'habille au fond de toutes les images et de toutes les créatures très concrètes de notre monde, hein, pour essayer de nous faire comprendre
qui est Dieu.
Est, oui. Voilà.
Alors on va reprendre le texte. Jésus déclare « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent ». Donc à qui Jésus fait allusion quand il parle de ces brebis-là?
Alors évidemment, il se met dans le rôle du berger, ses brebis évidemment, et ses brebis, c'est presque le « c'est » qui est plus important, le possessif, c'est-à-dire les brebis qui sont les siennes, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est la relation qu'il a avec ses brebis, hein, puisque au fond, il n'a pas fait main basse sur ses brebis, il les a reçues. C'est magnifique d'ailleurs, hein, parce qu'on lit plus haut que le berger qui a en charge des brebis, il est entré dans la bergerie, et un très mystérieux portier, je ne sais pas s'il y a beaucoup de portiers dans les bergeries, mais un mystérieux portier lui a ouvert la porte parce que les mauvais bergers, eux, escaladent et passent par d'autres endroits que la porte. Donc, il faut passer par la porte et au fond, les recevoir, ces brebis. Donc, ces brebis, il les a reçues. Bien sûr, il les a reçues du Père. Et c'est la relation qu'il a avec elles qui est, au fond, la plus importante.
Le berger, c'est une figure importante dans la Bible. On connaît le psaume célèbre,
oui,
hein, le Seigneur
22,
est mon berger.
Mon berger, voilà, le magnifique psaume 22 qui est un peu en résonance d'ailleurs en palimpseste avec cet évangile. Il y a des bons, il y a des mauvais bergers. Au fond, le mystère du mal, du point de vue des brebis, il est double. Il y a à la fois les loups, donc le mal peut être extérieur, donc le propre du berger, c'est de protéger ses brebis du loup. Mais le mal peut être intérieur aussi, c'est-à-dire qu'il y a des mauvais bergers. Et évidemment, ce qui va faire que des gens veulent le lapider après cette proclamation de ce qu'il est notre berger, il y a un souvenir évidemment d'un texte biblique qui est Ézéchiel. Enfin, il y en a deux particulièrement. Il y a Jérémie au chapitre 23 et Ézéchiel au chapitre 34 où il y a un véritable réquisitoire contre les mauvais bergers. Hein, les mauvais bergers qui ne paissent qu'eux-mêmes et Dieu vraiment se désole de devoir son peuple aux mains des mauvais bergers. Et donc lui va être le bon berger. Alors, c'est vrai que l'expression « le bon berger », elle sent un peu l'encaustique de sacristie, elle est devenue un peu mièvre. On devrait peut-être pas dire d'ailleurs le bon berger.
Mais le berger.
Le berger, puis le mot grec, c'est le beau berger. Le mot grec, c'est le mot kalos. Hein. Celui-là, c'est un beau berger hein, qui est vraiment le berger de ses brebis.
Il y a aussi la figure de Moïse hein, qui était pasteur.
Oui, bien évidemment, dans ce monde ancien, la figure du berger parle à tout le monde. Hein, évidemment, parce qu'on sent très bien que dans ce monde ancien, il n'y avait pas d'élevage intensif et il y a toute une relation ancestrale qui dure d'ailleurs, au fond, même au Moyen-Âge. Si Jeanne d'Arc est une bergère, elle était une bergère comme Moïse, comme Rachel. Le mot de Rachel, d'ailleurs, signifie brebis. Hein. Et donc, dans la relation entre le pasteur et son troupeau n'était, à cette époque-là, pas de nature économique, basée sur le rendement. Il y avait véritablement une relation personnelle entre le berger et ses brebis qui passaient des heures et des heures dans des lieux de solitude à s'observer, à se connaître. Et évidemment, il connaît chacune de ses brebis. Donc, il faudrait sans doute dire quelques mots d'une relation qui n'est pas une relation au troupeau.
Oui, parce que c'est ce qu'on peut se dire aussi en écoutant cette histoire de troupeau.
Évidemment, c'est ce qui toute image a sa limite. Hein. Donc, si on croit que le berger n'est là que pour gérer un troupeau, or il y a une autre parabole qui est en stéréo avec cet évangile, qui est la parabole de la brebis perdue. Hein, dans laquelle, vous vous souvenez,
on laisse les 99.
Donc ça veut dire que, au fond, chaque brebis compte pour elle-même, que contre la, ce qui est le caractéristique de notre temps, parce que s'il n'y a plus beaucoup de bergers aujourd'hui, en revanche, il y a peut-être des troupeaux ou des moutons, je ne sais pas s'ils sont toujours des moutons de panurge, mais au fond, nous sommes menacés par la massification. Hein, et évidemment, ce qui est magnifique dans la relation de ce berger à ses brebis, c'est que chacune est appelée par son nom. Hein, il appelle et il appelle chacune de ces brebis. Et la brebis perdue est là, parce qu'en vérité, si on discute avec des agriculteurs, quand il dit « est-ce que vous ne feriez pas ça, laissez les 99 autres », je ne pense pas que beaucoup d'agriculteurs feraient ça. Ça passerait au compte des pertes et profits. Quel agriculteur ferait ça? Mais lui n'est jamais dans le rendement, et chaque brebis compte, chaque brebis, il en connaît le nom. Et évidemment, c'est ça qui est tout à fait magnifique dans cette relation, c'est que le troupeau peut être nombreux. Jamais le Christ n'a relation avec un troupeau. Il est clair que ce berger-là est en relation personnelle avec chacune de ses brebis.
RCF, enfin une bonne nouvelle. Patrick Laudet, nous regardons l'évangile de ce dimanche où il est question d'un bon berger qui connaît ses brebis. Alors des brebis qui écoutent sa voix hein, et elles suivent.
Oui,
l'écoute ah oui. Très importante, bien sûr.
La voix surtout, la voix. Il faudrait dire quelques mots de la voix parce que qu'est-ce qui fait que cette voix, les brebis la connaissent et quel est le timbre, quel est le grain particulier de cette voix? C'est sans doute parce que c'est une voix dans laquelle, au fond, on entend que celui qui a cette voix, il donne sa vie. Et c'est une voix, au fond, qui est faite pour le vocatif. Elle appelle, elle nous appelle, elle exprime d'une certaine manière ce débordement du cœur. Et c'est une voix, évidemment, qu'il faut que nous recevions et il faut que, au fond, nous passions par cette voix comme il faut passer par la porte pourrait presque dire que la porte étroite, c'est au fond cette voix de ce berger qui nous appelle. Et si nous entrons dans l'acceptation de cette voix qui nous appelle, alors, eh bien, comme il est dit, nous aurons la vie éternelle. On passe dans ce moment de Saint-Jean extrêmement fulgurant, quasiment directement de la voix du berger à la vie éternelle.
Mais entendre une voix aujourd'hui aimante au cœur du brouhaha et du pléthore de sons, de paroles, c'est un vrai défi.
Oui, de la reconnaître parmi tant d'autres, parmi tant de bruits, parmi tant de vociférations. Il y a peut-être un autre moment d'évangile qui nous aide, c'est le matin de Pâques. Vous savez, Marie-Madeleine est au jardin, elle voit cet homme qu'elle prend pour le jardinier, qu'elle ne reconnaît pas. Et puis tout à coup, c'est quand il l'appelle. C'est quand il l'appelle, justement. Donc, je disais, cette voix est faite pour le vocatif, elle est faite pour nous appeler. C'est quand il prononce son nom qu'à l'émission de sa voix, elle le reconnaît. Hein, les brebis connaissent la voix de leur berger. Donc, il y a quand même une inflexion, une intonation dans cette voix qui fait qu'on la reconnaîtra entre toutes.
Et puis, dans le cas de Marie, c'est son prénom, c'est vraiment son identité. Elle est nommée en tant que sujet.
Oui, c'est au fond toujours cette idée que le berger nomme ses brebis. Notre nom, c'est qu'il soit réel ou secret, comme celui qui est écrit sur ce petit caillou blanc de l'Apocalypse.
L'Apocalypse, oui.
Eh bien, c'est au fond l'ADN du secret de notre être. Donc en nous nommant, il instaure la relation personnelle que ce berger veut avoir avec chacune de ses brebis.
Nous regardons avec vous l'évangile de ce dimanche. C'est en Jean, chapitre 10, versets 27 à 30. Jésus dit au sujet de ses brebis: « Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. » Il est question de la vie éternelle. C'est un sujet qu'on retrouve souvent chez Jean. La vie éternelle qu'il offre, c'est lui, on peut dire que lui est la vie et qu'il se donne totalement justement au-delà de la mort.
Oui, il se donne totalement et à travers... Il y a deux très belles images ici, on vient d'en parler, c'est celle de la voix. Mais aussi, c'est celle de la main. Personne ne les arrachera de ma main. Et donc, on voit ici très bien, d'ailleurs, la dimension charnelle, très, très incarnée de ces images. Qu'est-ce que c'est que cette main? Au fond, de la même manière que dans le grain de la voix s'entendait le don de la vie, on peut dire que la main est le prolongement visible du cœur. Elle est l'outil du cœur. Donc, elle est le lieu un peu mystérieux de l'intimité du Christ avec son Père. Et au fond, être dans la main du Christ, c'est être introduit, finalement intronisé dans cette communion d'amour. Et la vie éternelle, c'est ça. C'est le moment où nous serons finalement introduits, intronisés, entreposés entre le Père et le Fils.
Alors vous parlez au futur, quand nous serons, mais est-ce une histoire de futur, la vie éternelle? Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui?
Alors c'est à la fois un futur, bien sûr, parce que si nous étions déjà complètement entreposés dans l'espace trinitaire, qui est peut-être au fond le lieu de la vraie bergerie, hein. C'est la vraie bergerie, celle qui a un portier, parce que je ne connais pas beaucoup de bergeries qui ont un portier pour permettre au berger d'y entrer, au fond c'est la communion trinitaire. Hein.
Le Père, le Fils
le Père,
et l'Esprit.
Le Fils et l'Esprit. Et un jour nous serons, c'est là que nous avons vocation à trouver notre ultime demeure, notre véritable demeure, c'est là où rien ne nous arrachera à la communion d'amour du Père et du Fils. Et donc cet avenir, et en même temps, ben, nous le savons bien, c'est déjà un peu là, et l'incarnation de Jésus sanctifie le monde et l'aventure humaine, et nous en goûtons déjà un peu les arts, c'est-à-dire que dès que nous sommes dans une expérience authentique de charité, nous sommes déjà un peu introduits dans cette bergerie, nous sommes un peu placés dans la main de Jésus, qui est aussi la main du Père, de laquelle personne ne nous arrache.
Mais qu'est-ce que ça veut dire justement aujourd'hui, le fait de reposer dans la main de Dieu ?
J'en parlais tout à l'heure, la menace du monde moderne, c'est d'ailleurs souvent Jésus est ému quand il voit des foules, parce qu'il voit dans leur fatigue, dans leur désarroi, des brebis sans berger. Quelle meilleure image de notre monde. Et au fond, je crois que ce qui est terrible aujourd'hui pour nous, c'est la massification, la grande immatriculation généralisée a besoin d'un évangile comme celui-ci pour nous dire non, voilà, le régime ultime, ce n'est pas celui du numéro auquel nous sommes sommés de nous référer. C'est qu'il y a un berger qui nous appelle et qui nous épelle par notre nom. Et contre cette grande immatriculation généralisée, il y a cette merveilleuse nomination personnelle et cette voix qui nous parle, qui nous appelle chacun par notre nom, et cette main qui nous tient et pour nous dire que nous sommes chacun, de façon très personnelle et très mystérieuse, introduit dans ce mystère d'amour. Et toute la limite de l'image, mais je crois que Jésus fait tout pour que nous ne tombions pas dans ce contresens, c'est de ne pas imaginer un troupeau qu'un berger gérerait, le mot est très moderne, ferait prospérer. Il ne fait pas de l'élevage intensif ou de l'élevage industriel. C'est toute la limite, évidemment, de l'image est là, mais il prend beaucoup de précautions pour nous faire entendre de quel berger il s'agit et comment ce berger-là, c'était sans doute le cas des bergers du monde ancien, connaît vraiment chacune de ses brebis.
Enfin une bonne nouvelle, Béatrice Soltner.
Patrick Laudet, nous continuons à écouter l'évangile de Jean au chapitre 10, versets 27 à 30. Rappelons que Jésus est dans le temple, à Jérusalem, il s'adresse aux autorités juives qui vont se fâcher à la fin de cet épisode. Il poursuit en disant « Mon Père qui m'a donné mes brebis est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père ». Donc nous étions dans la main du Fils et nous sommes aussi dans la main du Père, c'est comme des poupées gigognes au fond. C'est en plus le Père qui a donné les brebis, oui. Donc
Et donc là, évidemment, si Jésus n'est pas le Messie, ses paroles sont incroyablement blasphématoires, puisque et là, évidemment, il y a Ézéchiel qui est en arrière-plan, puisque dans Ézéchiel, le prophète nous dit que Dieu, qui ne se résout pas, qui se désole de voir ses brebis aux mains de mauvais bergers, s'engage lui-même à être le vrai berger, le vrai pasteur de son troupeau, et que il y a une promesse messianique très forte qui est donnée en Ézéchiel ou en Jérémie, et évidemment ce que Jésus laisse entendre à qui veut l'entendre, c'est qu'il est ce vrai pasteur promis par Ézéchiel.
Et c'est le fait qu'ils disent mon père qui excite les autorités religieuses, c'est-à-dire se mettre à l'égal de Dieu pour
bien
eux.
Sûr, et là on voit très bien que le fait qu'il fasse une sorte, Jean l'explicite très bien et de façon très courte, il y a un parallélisme stupéfiant entre arraché de la main du père et arraché de ma main. Ça veut dire qu'il y a une identité profonde entre lui et le Père. Et donc, il est Dieu, bien sûr. Et ça, c'est insupportable. C'est la raison pour laquelle le Père et moi, nous sommes un.
Oui, c'est la finale. Le Père et moi, nous sommes un. Voilà. Donc, l'unité, elle est parfaite entre ce Jésus-Christ, Fils incarné du Père. Oui. Et c'est ça qui me met en colère.
Ben oui, parce que le verset suivant, on ne l'a pas dans l'évangile de ce dimanche, mais il suffit d'ouvrir sa Bible. De nouveau, les Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Donc, cette affirmation-là, elle est scandaleuse.
Elle est inaudible pour eux.
Elle est inaudible.
Un blasphème.
C'est un blasphème. Et évidemment, cette question de l'unité, parce que si on lit notre évangile en terminant, on dit « Ah ben, c'est super, c'est l'unité ». Mais il ne cherche pas à faire l'unité comme tout président de la République cherche à faire l'unité de sa nation. Il ne s'agit pas simplement de rassembler les gens pour les rassembler, il s'agit de les faire entrer dans un mystère d'unité, qui est un mystère trinitaire, et leur faire découvrir que notre ultime demeure, ce que dira le psaume 22, hein, sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. C'est quoi ces prés d'herbes fraîches? Quand il veut nous mettre au vert, c'est au vert de la Trinité, c'est-à-dire nous faire entrer dans cet espace, cette mystérieuse circulation d'amour où lui et le Père sont un, mais qu'il ne se réserve pas dans une intimité qui leur serait propre, et la porte de la bergerie, il est la porte, c'est magnifique ça aussi. C'est pour ça qu'il est le berger, il est la porte, il est aussi l'agneau, c'est-à-dire qu'il est celui qui est capable de se mettre à la place de ses brebis, et il sera, c'est la deuxième lecture de ce dimanche dans l'Apocalypse, l'agneau qui va être sacrifié. Il est tout ça à la fois, il est la porte pour nous laisser deviner et espérer et nous réjouir qu'il nous ouvrira cette bergerie trinitaire à laquelle nous sommes appelés.
Patrick Laudet, en quoi l'évangile que nous avons entendu est une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui? Vous avez commencé à le dire, que nous étions nommés, que nous étions attendus, que nous étions écoutés aussi.
Oui, alors c'est une bonne nouvelle parce que la massification nous abîme et donc nous avons besoin d'être. Et puis il y a une autre chose, c'est que nous ne savons plus bien où habiter, quoi. Vous savez, il paraît que le mot le plus employé aujourd'hui, c'est où es-tu dans les SMS? Un problème de localisation.
T'es où?
Et ça m'a toujours fasciné que d'ailleurs dans la Genèse, la première chose que dit Dieu à Adam qui vient de pécher, c'est pas qu'est-ce que tu viens de faire là, c'est Adam, où es-tu? Donc il y a une question de localisation. Et l'homme moderne ne sait plus très très bien où habiter. Il est délocalisé en permanence et il ne sait plus très bien quel est le lieu qu'il a habité. Eh bien, finalement, ce que l'Évangile nous dit, c'est que nous avons un lieu qui nous attend, des prés d'herbes fraîches. Il nous met au vert, alors d'une écologie spirituelle extrêmement belle. Il nous mène vers les eaux tranquilles qui vont nous faire revivre. Ça, c'est les paroles du psaume 22. Il est notre bon berger et il nous laisse découvrir que ce lieu-là, c'est l'intimité d'amour qu'il partage avec le Père et l'Esprit et dans laquelle il nous invite à entrer.
Nous sommes dans une société où l'individu choisit ce qu'il veut croire, ce qu'il veut porter comme habit, où il veut habiter. Il y a une sorte d'atomisation comme ça de la société.
Oui.
Et d'ailleurs, certains disent, mais moi, je veux pas être un mouton bêlant et donc ne faire partie ni d'institutions, encore moins de l'Église.
Oui.
Quand on lit le texte que vous avez commenté, en fait, il y a un contresens, parce que c'est au contraire un éloge de l'individu et du sujet.
C'est un éloge du sujet, en
du
tout cas.
Du sujet,
et
oui.
Et puis surtout, ce que fait le berger, il ne cherche pas à confiner ses brebis dans la bergerie. Il les fait sortir, donc il les envoie au large, il leur rouvre des espaces de liberté. C'est magnifique, un berger comme ça qui mène son troupeau sur les pâtures larges. Hein. Et donc, il y a cette image, on l'a au début du chapitre 13, hein. Il ouvre la porte et donc, quand il a poussé dehors toutes les siennes, hein, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Donc, il nous fait sortir de nos bergeries un peu étroites. Donc là, il y a une très belle image de libération. Et bien sûr que ça peut parler aussi aux hommes d'aujourd'hui. En tout cas, c'est vrai que ce berger qui a un tel pouvoir par la qualité de sa voix sur ses brebis, il est aussi un serviteur. Hein. Je suis très touché par le fait qu'au cœur du chapitre 10, on nous dit qu'il donne sa vie pour ses brebis. Le mot grec qui est utilisé pour donner sa vie, c'est le même mot que celui qui est utilisé dans l'évangile du serviteur quand il lave les pieds, vous savez, quand il pose ses vêtements. Hein, donc, il dépose quelque chose, il donne sa vie, il pose sa vie. Et donc, c'est magnifique de voir que le berger reste fondamentalement serviteur. Ses brebis, il les a reçues et c'est un beau signe qu'il nous donne d'être aussi nous-mêmes serviteurs en donnant notre vie, ce qui est au fond, je crois, la vocation chrétienne.
Nous pouvons penser aussi à la parole du pape François qui disait que tout responsable devrait sentir l'odeur du troupeau.
Oui, il dit ça dans la messe chrismale de 2013, que le vrai pasteur, il n'est pas pasteur de loin, il ne téléguide pas son troupeau, il ne fait pas de l'élevage industriel par ordinateur interposé, il vit au milieu de son troupeau, il est pénétré, je crois que c'est le mot, il est pénétré, il porte l'odeur des brebis. Hein, et c'est magnifique de voir que le pasteur, effectivement, il vit au milieu de son troupeau et c'est au fond ce qu'a voulu faire Dieu, venir habiter, prendre chair de notre humanité, devenir lui-même agneau pour mieux que n'importe quelle brebis, savoir au fond ce qu'il en est du mystère de l'agneau, qui est en même temps le deuxième texte de ce dimanche le montre bien, parce qu'on va lire l'Apocalypse. L'agneau sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Donc un berger qui est là à la fois la porte de la bergerie, qui est en même temps l'agneau en même temps qu'il en est le pasteur. C'est une superposition d'images, mais qui se complètent toutes les unes les autres pour nous faire entrer dans un très grand mystère d'amour, comme aucun Dieu ne l'a jamais révélé, qui est le désir que Dieu a de nous faire entrer dans cette bergerie de l'amour éternel.
On l'a compris parce que vous avez beaucoup fait de citations et il y a comme un millefeuille quand même dans la culture judéo-chrétienne. Il faut connaître. Pour ceux qui lisent ça et qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile, c'est quand même un peu ardu de rentrer dans cet univers-là fait de symboles, d'images qui se renvoient les unes aux autres.
Oui, c'est vrai que pour nous, c'est contemporain. Autant dans le monde ancien, l'expérience du berger était familière, hein, et tout pasteur savait bien ce qu'il en était au fond de cette relation très très profonde qu'il a avec ses bêtes. Hein. Aujourd'hui, évidemment, on fait de l'élevage industriel, l'élevage intensif, ça ne parle plus beaucoup. Mais en revanche, ce qui peut nous parler, c'est qu'on est tous un peu sommés d'être troupeaux. Et que troupeaux que nous sommes, ou moutons de panurge que nous ne voulons pas tout à fait être, ce sont des images qui peuvent nous parler, parce que nous pouvons nous livrer ou nous donner à n'importe quel berger. Et je crois que cet évangile nous alerte sur l'art qu'il y a à bien ouvrir l'oreille pour ne pas se tromper. Il y a des voix de berger dans lesquelles il faut discerner. Donc, qu'est-ce qu'il faut entendre? Et c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure.
Ouais, le mauvais berger qui...
Il y a des mauvais bergers. Il y a des voix qui parlent faux. Donc, les brebis connaissent la voix de leur vrai pasteur. Et ça, c'est un grand mystère. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'on peut discerner, je vous le disais tout à l'heure, peut-être quelque chose qui vaut plus encore que ce que dit cette voix, une certaine qualité, une certaine intonation, une certaine inflexion de la voix qui donne à entendre le don de l'amour qui est fait en même temps que la parole qui est donnée.
Merci à vous, Patrick Laudet. Pour ceux et celles qui veulent relire tranquillement ce texte, court mais très dense, c'est à retrouver chez Jean, chapitre 10, versets 27 à 30. Merci à Delphine Krivanovska à la technique.